Cinquième, géographie, thème 2, des ressources limitées à gérer et à renouveler. Le vocabulaire. Alors, je vais d'abord présenter le vocabulaire pour le premier sous-thème, l'eau, l'énergie, des ressources à aménager, à mieux utiliser. Donc, comme toujours, je vous rappelle que vous avez beaucoup de vocabulaire dans le cours en version numérique. Là, je ne vais lire que le vocabulaire qui est important, qui sert vraiment à maîtriser la compréhension à l'ensemble du cours. Je rappelle également que le vocabulaire, on peut l'apprendre par cœur, comme on peut aussi simplement chercher à le comprendre et être capable de le restituer, de l'expliquer avec ses propres mots. Alors, on a d'abord aride. Donc, aride, c'est le lieu où les précipitations sont faibles. Qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, peu importe, hein. Ce qui est important, c'est qu'on ait des précipitations sous forme de neige, sous forme de pluie. Donc, quand il n'y en a pas, on va parler de milieu aride. La biomasse. Alors, la biomasse, ça désigne l'ensemble des matières organiques d'origine végétale, animale, pouvant devenir source d'énergie par combustion. Exemple, le bois, énergie, ou là où c'est intéressant, après méthanisation, c'est-à-dire on fait du biogaz, on va créer un gaz à partir d'éléments biologiques, on a comme ça des bus hein, qui fonctionnent au biogaz, ou après de nouvelles transformations chimiques, on peut faire aussi des biocarburants à partir par exemple de tournesol, donc ça permet d'avoir moins de rejets nocifs dans l'atmosphère, donc ça c'était la biomasse. On a également vu, ou on le verra dans les activités, la notion de conflit d'usage. Alors un conflit, c'est une opposition entre plusieurs acteurs. Alors ce qu'on appelle les acteurs en géographie, ça peut être un citoyen, ça peut être une entreprise, ça peut être une association, ça peut être entre un agriculteur et une industrie. Donc conflit entre plusieurs acteurs pour l'utilisation d'une même ressource ou d'un même espace. Alors on peut prendre l'exemple de l'eau, hein, en été. On peut avoir un conflit entre d'un côté des touristes qui veulent profiter de la piscine, des populations qui veulent arroser leur gazon, et puis de l'autre côté des agriculteurs qui eux ont besoin de l'eau pour leur production. Et donc on peut avoir une limitation à ce moment-là de cette utilisation de l'eau. Énergie renouvelable. Donc les énergies renouvelables, ce sont des énergies qui sont issues de sources que la nature renouvelle en permanence. Et dans un temps court, c'est-à-dire un temps court à l'échelle de l'humanité. Alors, on a par exemple l'énergie solaire, l'énergie éolienne, c'est-à-dire la force du vent. On a la biomasse, qui sont trois types d'énergie renouvelable. On pourrait également citer la force hydraulique. On peut utiliser la force des marées ou la force des fleuves pour créer de l'électricité. L'énergie renouvelable s'oppose évidemment à l'énergie qui n'est pas renouvelable, comme par exemple le pétrole. Les gaz à effet de serre, GES, donc ce sont des gaz qui sont à l'origine du changement climatique, ces gaz à effet de serre. L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre est l'un des facteurs d'impact à l'origine du réchauffement climatique. Donc ces gaz, pourquoi effet de serre? Ils ont tendance à recouvrir la Terre, une sorte de sphère invisible, ce qui laisse passer les rayons du Soleil. Et lorsque ces rayons du Soleil se reflètent en partie sur la Terre et retournent dans l'atmosphère, eh bien à ce moment-là, ces rayons du Soleil sont piégés par ces gaz. Et donc, bien évidemment, on a petit à petit comme ça un réchauffement à l'échelle du globe. Les hydrocarbures. Alors, hydrocarbures, on est sur deux énergies non renouvelables, des énergies aussi qu'on appelle fossiles. Il s'agit du pétrole et il s'agit du gaz naturel. L'irrigation, l'apport artificiel d'eau pour l'agriculture, par exemple, évidemment, hein, donc on parle évidemment d'eau douce. Et enfin, dernière définition pour ce premier sous-thème, les ressources naturelles. Donc, ce sont les éléments apportés par la nature et exploités par les êtres humains. Exploiter, ça veut dire transformer, gérer, etc. On passe au sous-thème 2 pour le vocabulaire. sur l'alimentation qui s'intitulait « Comment nourrir une humanité en croissance démographique et aux besoins alimentaires accrus ». Donc là, comme je l'ai dit précédemment, je ne lis que les définitions très importantes, mais il y en a beaucoup d'autres. On va commencer par l'agriculture biologique. Donc c'est une agriculture durable, durable dans le sens où elle va faire en sorte de ne pas supprimer tout ce qu'elle utilise pour que les générations d'après puissent également bénéficier de cette agriculture. Donc c'est une agriculture durable qui respecte l'environnement en interdisant l'utilisation de produits chimiques, ce qu'on va appeler des intrants, que ça soit donc des engrais, que ça soit pour la terre, hein, qui nourrissent la terre, des engrais chimiques, que ça soit des pesticides, donc qui vont tuer les mauvaises herbes, ou que ce soit des insecticides qui vont tuer les insectes. L'agriculture biologique également ne va pas utiliser d'OGM, d'organismes génétiquement modifiés, mais va rester sur des semences qui ne sont pas transformées, qui sont des semences également biologiques. Alors on a l'autre agriculture, qu'on appelle l'agriculture intensive et productiviste. Donc elle s'oppose à l'agriculture biologique dans le sens où elle va utiliser des intrants, elle va utiliser des produits chimiques. Donc c'est le système de production agricole où les rendements sont élevés, donc grâce à ces produits chimiques, grâce aussi à la mécanisation, donc on va utiliser un certain nombre d'outils. À noter que dans l'agriculture biologique, on peut très bien utiliser des tracteurs, des machines, hein. Ça c'est pas du tout interdit. Alors, une définition un peu compliquée, IDH, indice de développement humain. Alors, un indice, hein, c'est une mesure. C'est une mesure qui permet de connaître le niveau de développement d'un pays. Donc, à savoir si un pays est capable de proposer suffisamment de ressources à sa population et, on va dire, un certain bien-être. Donc cet IDH, il est compris entre 0, quelque chose, 0,1, 0,2 et 0,900 et quelques, 980 par exemple. Si vous vous approchez de 1, c'est-à-dire 0,980, vous êtes avec un IDH qui est très élevé, c'est-à-dire on est à peu près certain que vous êtes sur un pays riche qui a un avenir qui risque de continuer dans ce sens-là. A l'inverse, un IDH qui est très faible, 0,210 par exemple, eh bien c'est un pays qui est extrêmement pauvre et qui d'ailleurs à ce stade n'est pas capable de s'en sortir. On considère qu'à partir de 0,8, un pays est relativement riche. En dessous de 0,8, il n'est pas riche, il est plutôt en développement. Et en dessous de 0,5, on va considérer qu'un pays est vraiment pauvre. Pour mesurer, pour faire ce chiffre, alors là je développe un petit peu, hein, c'est un calcul mathématique qui est compliqué, mais sachez quand même que on va retenir l'espérance de vie, on va retenir le niveau d'études et on va retenir la richesse produite dans le pays. Et donc ça nous donne ce chiffre entre 0 et 1. La malnutrition. Mal nourri, hein, c'est le déséquilibre de la ration alimentaire que tout humain doit avoir. Hein. On doit avoir tant de calories, entre 2000 et 4000 calories par jour, et évidemment avec un équilibre alimentaire. Donc la malnutrition, on va parler de carence alimentaire, c'est-à-dire si on est en dessous de 2000 calories par jour, eh bien le corps n'a pas les nutriments nécessaires pour bien fonctionner. Mais on peut également trop manger, on peut être sur une suralimentation, on est toujours dans la malnutrition, avec effectivement là des problèmes par exemple d'obésité. Vous avez d'ailleurs la définition dans le cours. On arrive à la notion de révolution verte. Alors révolution verte, ça on l'utilise pour différents pays. C'est la modernisation de l'agriculture, la révolution verte, qui repose sur l'intensification, c'est-à-dire sur l'augmentation des rendements agricoles grâce aux machines et aux produits chimiques principalement. Alors, il y a des pays comme la France qui ont fait leur révolution verte il y a déjà très longtemps, plus d'un demi-siècle. On a d'autres pays comme l'Inde qui l'ont mise en place à partir des années 60-70. Et puis des pays, je dirais, qui ne l'ont pas encore fait. Alors, cette révolution verte, aujourd'hui, elle peut être en partie remise en cause, hein, notamment donc dans l'opposition qu'il peut y avoir entre justement une agriculture intensive et productiviste et qui utilise trop d'intrants et puis une agriculture biologique. Voilà, donc ça fait partie des débats que nous pourrons étudier et développer en classe.